Voilà, bonjour à chacun. Ça me fait plaisir toujours de me retrouver parmi vous. Oh, je vois qu'il y a quelques petits soucis de micro. J'espère que ça va aller. Voilà, donc nous venons, comme il a été dit, nous venons de fêter l'Ascension lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel après sa résurrection. Vous savez, donc, il s'est assis à la droite du Père, d'où il règne avec les pleins pouvoirs. Et ce matin, eh bien, je vous propose de méditer sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vous propose de lire dans l'Épître aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, au premier chapitre, les versets 1 à 6. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Voilà, alors je vous ai mis une traduction un petit peu littérale des deux premiers versets. À plusieurs reprises et de bien des manières autrefois, Dieu ayant parlé par les prophètes, au Père par les prophètes, et on voit que c'est en parallèle avec « Au dernier de ses jours, il a parlé à nous par le Fils ». Et cette première comparaison, je la trouve vraiment magistrale parce qu'elle place le Fils tout seul par rapport aux nombreux prophètes de l'Ancien Testament. Alors bien sûr, ces prophètes, ce sont les auteurs des livres bibliques comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 12 petits prophètes. Mais pas seulement, parce que beaucoup d'autres croyants dans l'Ancien Testament sont aussi appelés prophètes, comme par exemple Abraham, Aaron, Moïse, Samuel, Gad, Nathan, Élie, Élisée, etc. Alors les prophètes sont vraiment nombreux, mais à lui seul, le Fils récapitule toute la révélation que Dieu a donnée depuis le début de l'humanité. Il est la pleine réalisation de toutes les promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament. Jésus est donc le prophète par excellence, et le prophète dans le sens le plus fort du terme, le prophète c'est celui qui annonce devant la parole de Dieu, eh bien, il est même plus que le prophète, puisqu'il est lui-même la parole, il est lui-même Dieu. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'esprit. Il faut se laisser inspirer. Mais ce n'est pas ainsi que le Nouveau Testament nous appelle à croire. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Jésus était évidemment rempli du Saint-Esprit, pleinement inspiré par Dieu. Mais notre modèle de vie, c'est Jésus-Christ, qui a été parfait dans toute sa conduite. Bien sûr, par le Saint-Esprit, il nous a transmis la parole de Dieu et nous a fait naître à une vie nouvelle. Être rempli de l'Esprit, ce n'est donc pas juste se sentir bien dans sa peau ou bien en phase avec le cosmos. Non, nous sommes remplis du Saint-Esprit lorsque nous adorons Jésus-Christ, qui nous révèle son Père, et lorsque nous agissons comme Jésus-Christ, en vivant les fruits de son esprit, en combattant le bon combat de la foi avec les armes de son esprit. En Jésus-Christ, nous avons donc le modèle par excellence, le modèle humain par excellence, celui qu'il faut suivre. Et c'est bien plus engageant que de dire « je me laisse inspirer ». Parce que dans notre société, beaucoup de gens se disent inspirés par toutes sortes d'esprits, d'énergie et de spiritualité. Mais être inspiré du Saint-Esprit signifie suivre Jésus-Christ et aucun autre. Et qui dit suivre, dit aussi obéir à sa parole. Qu'on peut parfois recevoir, c'est vrai, de manière directe, mais le plus souvent, c'est dans la Bible, la parole de Dieu, que Dieu nous parle par son esprit. Et cela nous demande un certain effort et de prendre aussi du temps pour méditer cette lettre d'amour que Dieu nous a écrite. Jésus-Christ est donc le prophète de Dieu par excellence. Mais ces deux premiers versets disent aussi que Jésus-Christ est la dernière révélation. Autrefois, Dieu a parlé parce qu'il est vivant et qu'il parle à toutes les époques. Pourtant, bien des paroles restaient voilées. Mais quand le Fils est venu, il nous a fait connaître son Père comme jamais auparavant. Il nous a fait goûter à l'intimité de leur relation. Et ça, c'est fabuleux. On voit souvent dans les évangiles Jésus qui se met à l'écart pour prier avec son Père. Il nous a fait goûter à cette intimité-là. Et pour nous révéler son Père, Jésus est venu en toute simplicité, en toute humilité vivre parmi nous. Il a revêtu notre humanité et sa vie a été entièrement parfaite. Il a vécu selon le désir de son Père. Et ce désir, il est vraiment merveilleux. Parce que depuis le début de l'humanité, Dieu a voulu faire de nous ses représentants, ses images sur la terre. Comme le dit Genèse 1, versets 26-27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Alors Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ça veut dire qu'ensemble, tous ensemble, nous sommes appelés à ressembler au Dieu trois fois saint. Et ça, c'est complètement fou. Mais évidemment, dès le début, Adam et Ève ont péché et l'humanité s'est corrompue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à plusieurs reprises et de bien des manières, Dieu a parlé. Ça signifie qu'il a voulu rétablir la relation avec nous. Et il s'est choisi justement des prophètes pour nous parler. Mais depuis 2000 ans, c'est le Fils en personne qui nous parle de la part de son Père. Et ça, c'est prodigieux. Il n'y a vraiment pas de gloire plus grande que la révélation de Jésus-Christ. Et l'auteur de notre lettre ne tarit pas d'éloges et il place le Fils à la tête de toutes les propositions qui suivent et qui, dans le texte original en grec, ne forment qu'une seule phrase entre les versets 1 à 4. Je vous les ai mis là. Donc vous avez le début à plusieurs reprises et de bien des manières autrefois. Dieu ayant parlé au Père par les prophètes au dernier de ses jours, il a parlé à nous par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé l'univers, lui qui étant le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa personne, et soutenant tout par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus excellent qu'eux. Voilà cette énorme phrase dans le texte en grec. Il n'y a pas eu besoin de Marcel Proust pour savoir faire des longues phrases. Le grec le savait très bien. Et donc, il y a le Fils qui est placé là en première position de toutes les phrases, enfin les bouts de phrases qui suivent. Donc, Dieu a établi ce Fils héritier de toutes choses. La question de l'héritage rappelle le tout début avec Abraham. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire où Abraham n'avait pas d'enfant et il pensait établir son serviteur Eliezer comme héritier de ses biens. Mais Dieu s'y oppose et il lui promet la naissance d'un fils par miracle. Parce que Sarah, la femme d'Abraham, était stérile, mais aussi parce que de toute façon le couple était beaucoup trop vieux pour espérer encore avoir des enfants. Donc, ils ont eu un fils, Isaac, ce fils miraculeux né d'Abraham et Sarah, et c'est lui qui a hérité de tous les biens du couple, mais aussi et surtout de l'alliance avec Dieu. Et Dieu a donné à Isaac la bénédiction d'Abraham, il la lui a donnée, et lui a promis aussi la terre de Canaan, et puis à leur tour, les descendants d'Isaac, de Jacob, et puis finalement tout le peuple d'Israël, a hérité de cette alliance, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Le Fils par excellence, né lui aussi par miracle, puisque sa maman était vierge, et puis qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Et la lettre aux Romains affirme au chapitre 4 que c'est par la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham. Donc ça veut dire que Dieu a parlé, Abraham lui a fait confiance, il a cru dans les promesses de Dieu, et donc c'est par cette justice de la foi, par sa confiance en Dieu, qu'Abraham a reçu la promesse d'hériter la terre. Mais bien sûr, à cause du péché, les Israélites sont morts. Et ils ont dû laisser ces promesses à leurs descendants, puis encore à leurs descendants, etc. Et ils n'ont jamais vraiment vu la promesse de la terre se réaliser pleinement. Par contre, quand Jésus-Christ est venu, lui, il a su faire entièrement confiance à Dieu. Il a cru sans jamais douter. Et c'est pourquoi son père lui a donné le monde en héritage, comme promis. Et donc vous avez Abraham et tous ses descendants qui ont cru en Dieu et qui ont préfiguré la venue de Jésus-Christ le juste. Alors l'image de l'héritage ici ne signifie pas que le père est mort ou qu'il va mourir. Non, cette image est utilisée pour son côté juridique. Il y a eu un acte de loi que le Père a déposé, ce testament qui stipule que son fils Jésus-Christ va hériter la terre pour y régner. Et cela s'est réalisé lorsque le Père a ressuscité son fils, il l'a fait revenir à la vie, il l'a intronisé roi, il l'a couronné et l'a fait asseoir à sa droite en lui donnant les pleins pouvoirs. Par cette décision de justice, Jésus est pleinement légitimé dans ses fonctions royales. Il est Seigneur. Son règne est universel et éternel. Cela signifie que si on confesse Jésus-Christ comme Seigneur, cela nous engage à le laisser régner sur tout. Nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos choix de vie, notre volonté, nos faits et gestes, nos paroles, nos relations. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai ouvert tous les recoins de ma vie au Seigneur Jésus-Christ ? Puis aussi dans le cadre de la communauté, dans nos cultes, nos temps de louange et de prière, nos repas communautaires, nos discussions, nos relations, là aussi avons-nous fait toute la place au Seigneur Jésus-Christ ? Alors vous me direz que bon, aujourd'hui on ne voit pas vraiment Jésus régner autour de nous. Et oui, c'est vrai, il reste des poches de résistance, dans nos vies d'abord, mais aussi sur cette terre. Mais le diable est mort, et la mort ont été vaincus. Ils ont été vaincus à la croix. Jésus-Christ est ressuscité, il vit pour toujours, sa victoire est éclatante. Et à tous ceux qui ont la même foi qu'Abraham, la même confiance en Dieu, eh bien Dieu nous promet qu'un jour nous participerons à l'héritage de Jésus-Christ. Ça, c'est fabuleux. Comme le dit Paul aux Corinthiens avec une logique imparable, il dit « Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Et aux Romains, il dit aussi « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, eh bien, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Alors même s'il y a beaucoup de souffrances dans le temps présent, notre avenir est vraiment glorieux, totalement glorieux. Regardons la phrase suivante. Par Jésus-Christ, Dieu a créé l'univers. Jésus est donc l'agent de la création. Il a mis à exécution les paroles de création de son Père. Et les mots du texte original précisent qu'il s'agit d'une succession d'étapes. La création, c'est pas un bloc statique, poum, qui serait tombé du ciel. Non, Dieu a tout créé et depuis, il soutient et renouvelle sa création à chaque époque jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra pour établir son règne. Et là, il débarrassera complètement toute la terre du mal. Donc on le voit dans les deux premiers versets, il est dit ce que le Père a fait, et je vous ai souligné les verbes qui sont conjugués, qui marquent vraiment le mouvement fort du texte. Dieu a parlé d'abord par son Fils, il l'a établi héritier, il a créé l'univers, ça c'est les trois choses que le Père a faites. Puis après vous avez encore deux autres verbes qui disent ce que le Fils a fait, il s'est assis et il a hérité. Jésus était soumis à son Père. Il a cru en lui. Il lui a obéi en toutes choses. Alors, son Père l'a exaucé en le ressuscitant des morts. Ainsi, Jésus a pu s'asseoir à ses côtés sur son trône et hériter de l'univers pour y régner à toujours. Et Jésus ressemble comme deux gouttes d'eau à son Père. Il nous est dit qu'il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa personne. Alors le rayonnement de la gloire, ça m'a fait penser au mont Sinaï, quand Moïse a reçu la loi, il est redescendu de la montagne et la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et là, les Israélites ont eu très peur. Ils savaient qu'ils risquaient la mort au contact de la gloire de Dieu, parce que la gloire, la sainteté de Dieu est comme le soleil qui nous réchauffe et qui nous fait du bien. Mais quand on s'en approche, ça nous brûle. Et à cause du mal et du péché qui nous colle à la peau, eh bien, nous risquons d'être consumés devant Dieu. C'est pourquoi les Israélites ont dû construire le tabernacle. Cette tente qui abritait la présence de Dieu, elle mettait une séparation entre eux et l'Éternel de façon à ce qu'ils ne soient pas consumés. Le tabernacle était donc d'une certaine manière une manifestation visible de Dieu, du Dieu glorieux et saint au milieu d'un peuple pécheur. Et l'apôtre Jean nous dit que Jésus littéralement a tabernaclé parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, Jean 1, 14. Donc le tabernacle préfigurait Jésus-Christ, cette présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le rayonnement du visage de Moïse préfigurait la gloire de ce Fils de Dieu. Oui, Jésus-Christ est cette véritable tente où a résidé pleinement la présence de Dieu sur la terre. Il était aussi un voile pour nous protéger de la sainteté qui consume nos vies pécheresses. Jésus est aussi l'expression de la personne du Père. Littéralement, il s'agit de l'empreinte de la personne du Père. Et autrefois, lorsque les rois écrivaient, ils fondaient de la cire sur laquelle ils imprimaient leurs sceaux, leurs armoiries, afin d'authentifier leurs lettres. Eh bien, c'est un peu ce qu'est Jésus-Christ. Il est cette empreinte que le Père a imprimée sur la terre pour sceller son alliance, sa lettre d'amour avec nous. Jésus a révélé le Père par ses enseignements. Il a accompli de nombreux miracles qui étaient vraiment des signes pour attester qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu. Et il s'est livré pour nous à la croix, mettant ainsi le comble à son amour et dévoilant l'immensité de l'amour du Père à notre égard. Jésus soutient tout par sa parole puissante. Comme son Père, j'ai dit qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son Père, et bien Jésus-Christ aussi parle. Et malheureusement, une des rares choses que les gens savent encore dans notre société, c'est que il y a un petit Jésus dans la crèche, un petit bébé qui ne sait même pas parler, mais se contenter d'une telle image, c'est tellement pauvre et réducteur, c'est une grave méprise, parce que Jésus parle encore aujourd'hui, et surtout sa parole est puissante. Elle délivre et elle sauve. Mais elle va aussi juger et condamner un jour ceux qui rejettent le Christ. Alors ne dédaignons pas la parole de Dieu, prenons-la au sérieux et demandons au Seigneur des oreilles qui sachent l'écouter ainsi qu'un cœur qui soit disposé à lui obéir et à le servir. Jésus a aussi accompli la purification des péchés. À l'époque du peuple d'Israël, une fois par an, le grand prêtre apportait le sang d'un taureau dans le tabernacle jusque dans le lieu très saint afin de purifier d'une part les objets du culte, tous les objets du culte. Mais le peuple d'Israël savait bien que le sang d'animaux ne pouvait pas effacer les péchés. C'était une image qui leur était donnée du sang que Jésus-Christ verserait pour nous. D'ailleurs, tout le tabernacle était une image sur la terre de la demeure de Dieu au ciel. Et vous aviez le lieu très saint qui abritait la présence même de Dieu. Et c'est là que Jésus-Christ a apporté son propre sang. Comme le dit un peu plus loin la lettre aux Hébreux au chapitre 10, « Par une seule offrande, Jésus-Christ a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi en disant « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Vous aviez ce voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le tabernacle et puis ensuite dans le temple. Et ce voile s'est déchiré au moment où Jésus est mort. Donc la route vers l'arche de l'Alliance qui symbolisait le trône de Dieu, eh bien la route est maintenant ouverte. Oui, Jésus a réalisé bien au-delà de tout ce que le peuple d'Israël pouvait vivre en s'approchant du tabernacle puis du temple, parce que à chaque écart par rapport à la loi, il leur fallait offrir encore et encore de coûteux sacrifices pour demander pardon. Mais aujourd'hui, il nous suffit de venir auprès de Jésus-Christ avec un cœur sincère et repentant pour demander grâce par la foi. C'est un geste tout simple de venir devant lui, très simple mais aussi très compliqué parce que à cause de notre cœur rebelle, tout s'y oppose. Alors laissons tomber notre orgueil et approchons-nous de ce trône de la grâce afin d'obtenir la grâce et le pardon. Ayant donc accompli la purification de nos péchés avec son sang, c'est-à-dire après sa mort, Jésus est ressuscité. Il s'est assis, comme il est écrit là, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cela signifie qu'aujourd'hui, Jésus-Christ règne avec une vue plongeante et totale sur toute la terre. Et chaque fois qu'il se produit quoi que ce soit sur la terre, ce n'est pas du hasard. Et l'Apocalypse le dit très très bien. Vous avez au chapitre 4 cette vision du trône de Dieu et ensuite c'est depuis là que tous les fléaux, tout ce qui se passe sur la terre est ordonné. Alors c'est vrai que c'est des fois difficile à comprendre, surtout que certains fléaux semblent plus injustes que d'autres. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une guerre spirituelle qui se déroule sous nos yeux. Et notre vision du champ de bataille est si peu objective et tellement partielle que nous ne pouvons pas juger. Il nous faut faire confiance, comme Abraham. Du haut de son ciel, Jésus-Christ maîtrise totalement. Et il a hérité la terre, pas juste une terre à l'agonie comme on le voit aujourd'hui, mais une terre qui sera complètement renouvelée. Et un jour, il nous promet de partager cet héritage avec nous, avec tous les siens. Nous pouvons vraiment nous réjouir de cette perspective. Oui, Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus excellent qu'eux. L'auteur de notre lettre aux Hébreux a montré que Jésus est bien supérieur à tous les prophètes réunis, tous ceux de l'Ancien Testament. Maintenant, il affirme que Jésus surpasse aussi tous les anges de la cour céleste. Pourtant, leur service est glorieux. C'est par eux que la loi a été donnée, par exemple. Mais les anges restent des créatures, des messagers au service de Dieu. Ils n'ont pas ce rang du Fils de Dieu engendré de toute éternité. Alors il est temps de conclure. L'apôtre Paul a écrit ce magnifique poème aussi aux Philippiens en disant « Dieu a élevé son Fils à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Je vous propose quelques instants de silence pour nous approcher de Jésus-Christ. Demandons-lui grâce afin qu'il nous délivre de nos péchés, qu'il soit notre sauveur. Et disons-lui tout notre amour et notre désir qu'il règne en Seigneur sur notre vie. Oui, Seigneur, les mots nous manquent pour dire combien tu es merveilleux. Et nous voulons vraiment t'adorer, pas seulement dans ce temps de culte ce matin, mais dans toute cette semaine, dans tous ces temps qui viennent, en voyant tous ces désastres dans ce monde. Des fois, nous sommes abattus, attristés, atterrés. Mais Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rappelles dans ta parole que tu règnes et que tu reviens bientôt. Et avec toute l'Église, et avec ton esprit, nous voulons te dire, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen.